On est là pour ça. On est là pour ça.
Ah bon, très belle fin.
Pardon. Donc vous êtes bien dans On est là pour ça, encore ce mercredi soir.
Sur Radio Pulsar.
Sur Radio Pulsar, 95.9. Avec ce soir Hélène, bonsoir.
Bonsoir.
Avec Cécile, bonsoir.
Bonsoir.
Avec Ben, bonsoir.
Bonsoir.
Et avec Thomas, bonsoir.
Et avec un jingle fait main par tout le monde.
Ouais, donc, parce qu'en fait, on a oublié le disque.
Non,
faut
pas dire.
Ah bah non, oui, faut pas le dire.
Mais c'est vrai. On a entendu Mads Gustafsson qui jouait sur le dernier album de Sonicious qu'on a passé il y a pas très longtemps.
Et ouais, c'est fou.
C'est fou, c'est fou.
C'est
une grande famille.
Les gens qui font de la radio à Radio Pulsar.
Ouais, on est tous dans une communauté d'esprit.
Ouais.
Wow.
Quelle introduction.
Ah ouais, hein. Après Gustafsson, hein, attention. Et donc, c'était quoi ça, Cécile, dis donc.
C'était Griff, en fait, c'est un groupe qui va jouer, qu'on fait jouer avec l'association Solitude Records, donc au Confort samedi prochain, samedi 22 à 19h, donc au Confort Moderne. Et c'est un groupe de Boston, c'est un groupe de Sludge. C'est un groupe qui a été créé en 91, qui s'est séparé après, 10 ans après, puis là qui s'est reformé il y a 2-3 ans. Et donc ce groupe-là, il a vraiment, il a été fondé en fait par le guitariste d'un groupe qui s'appelle Disrupt.
Excusez-moi.
Et en fait, c'est l'un des groupes précurseurs vraiment du sludge qui a influencé, avec des groupes comme I Hate God ou Bunzoven en fait. Et voilà, donc le principe du sludge, c'est quoi ? C'est de réduire le tempo au maximum, quoi. De faire une musique lourde et très très lente, assez dépressive, quoi. Et donc là, c'est l'un des morceaux les plus courts et les plus rock'n'roll de
Disque
d'en question. Ça annonce une folle soirée, tout ça.
Et voilà. Et sur scène, je pense que ça doit être... c'est assez impressionnant. Et
c'est dur pour remuer la tête, alors ?
Non, tu peux remuer, mais très lentement. T'as vraiment le temps de détendre ton cou.
Ça évite de te former le cervical. C'est pratique, quoi.
Et voilà, et puis ce groupe, il a été influencé lui-même par des groupes, Black Sabbath ou ce genre de choses, quoi. C'est dans cette lignée-là, en fait, avec quand même un fond, une idéologie peut-être plus punk, un peu plus revendicatif, quoi. Voilà, et donc ce groupe-là joue donc le 22 novembre à Poitiers. Il faut savoir qu'il n'y a que 3 dates en France, donc on est des petits vénards. C'est à 19h pétante, c'est 6€ pour les adhérents au H et 8€ pour les autres. Il y aura une cantine végane sur place.
C'est quoi une cantine végane ?
Eh bien, ce sera... En fait, on va faire à manger de la bouffe végétalienne.
Végétalienne.
Voilà. Et puis, il y aura une distro aussi, des disques...
De Solitude Records.
Voilà, tout à fait.
Et tu peux nous en dire plus sur Solitude Records ?
Oui, en fait, c'est un label qui a été créé en 2000 par Bastien. Ouais. En fait, à la base, c'était plutôt de la distribution de disques alternatifs dans cette lignée-là, plutôt hardcore punk. C'est un label do-it-yourself, donc c'est non-profit, c'est... Voilà.
Tu veux dire qu'il n'y a pas des grands placards de pub dans les quotidiens nationaux ?
L'idée, en fait, c'est de diffuser, c'est de proposer une alternative aux industries culturelles telles qu'elles sont développées actuellement et qui ont le monopole, en fait. Et puis, c'est pas forcément de réduire la musique à juste un produit marketing, en fait.
D'où les chansons qui dépassent les 2 minutes.
Voilà. Et donc, voilà, c'est tout. Il y a tout un réseau complètement alternatif de création et de diffusion de musique, et ça en fait partie, en fait. Et donc, au-delà de la distribution de disques, Solitude Records produit aussi des. En fait, a produit 7 disques. Il y a eu le double CD de Monarch, ça, c'est un groupe de Bayonne. Donc, à chaque fois, c'est plutôt des coproductions. En fait, il y a plein de labels qui se regroupent, ça peut être même une dizaine de labels, des fois, pour pouvoir sortir des disques qu'on trouverait pas du tout à la Fnac, enfin dans le circuit traditionnel. Il y a aussi la production de Rainbow of Death d'un 10 pouces en fait, et puis d'autres choses. Il y a un CD de Danny O'Reilly, ça c'est plutôt du harsh noise. Enfin, voilà, à chaque fois c'est des choses un peu pointues et puis qui trouvent leur place, qui trouvent pas leur place ailleurs et qui ont leur vie à travers ce circuit là en fait.
Et on les trouve où, les disques ?
Alors, il y a un site internet, c'est www.solitude-records.com. Et donc, il y a un mail order. En fait, tu peux écouter des titres et puis commander. Donc, c'est de la vente par correspondance. Mais sinon, en fait, on fait de la vente surtout dans des concerts.
Dont le 22 novembre.
Voilà.
Pas mal.
Ah, mais il faut que je passe une musique là ? Non. Non, parce qu'après.
Tu veux tout de suite remettre la tête, justement ?
Je voulais dire qu'avec le concert de Griff, donc le 22 novembre à 19h, il y avait un groupe qui tournait avec eux qui s'appelle Trapzem, qui est un petit peu plus violent. Voilà.
Violon ?
Violent.
Plus de violon, genre Léo Ferré, tu vois.
Et donc, surtout, tu voulais. Donc, Cécile nous fait découvrir des fanzines tous les mois.
Et cette fois-ci, deux.
Voilà,
un français, un anglais.
Voilà, les deux coups de cœur du moment. Donc un fanzine qui s'appelle Torboyau, c'est un fanzine, c'est le numéro 2 d'un fanzine d'Angers en fait, qui traite, qui parle du vélo, des joies du vélo. Et il est à prix libre, c'est un petit format A5, sympa, photocopié, comme on les aime. Et donc il y a tout plein de, voilà, c'est quelqu'un qui est passionné de vélo et puis qui trouve, qui trouve un caractère politique dans le fait de faire du vélo. Je trouve ça très revendicatif. Donc voilà, donc il y a plein de textes, il explique qu'il aime faire du vélo, pourquoi il aime faire du vélo.
Comment réparer son vélo, comment chauffer un vélo. Comment...
Il explique qu'en fait, quand on est à vélo, eh ben, on consomme moins de monoxyde de carbone qu'un automobiliste. Et oui, il faut le savoir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il y a des textes de morceaux plutôt punk. Et puis il y a un CD qui accompagne, donc on peut écouter le CD en même temps qu'on lit le fanzine.
Bon, une fois on comprendra donc, quelque chose à la musique punk, tu veux dire qu'on a les paroles.
Et c'est que des chansons sur le vélo. Il y a des très belles photos aussi des gens à vélo à Angers. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui,
il y a... Ah, il y avait le truc de Ludwig von 88 là. Louison Bobet.
Voilà ce qu'on aurait dû passer comme
CD.
Oh, excellente
réminiscence. Louison Bobet, la bicyclette pied, roule.
Vas-y Louison. Louison Bobet.
Il y a aussi un article sur la vélorution à Angers en fait. Donc c'est des gens qui se réunissent et qui font du vélo. Des fois ils réussissent à être genre 200.
Il y en avait une petite à Poitiers aussi, je crois.
Ouais,
il y en a même plusieurs fois.
Ça se développe dans pas mal de villes, mais à Angers, ils sont assez. Ça fait un bout de temps qu'ils sont assez à fond là-dessus. Ils appellent ça aussi la masse critique, et ça a vraiment un caractère politique. Quelle est la place du vélo et de l'automobile dans la cité? Voilà.
C'est vrai que c'est un petit peu revendicatif quand on est beaucoup sur un vélo et qu'on bloque toute une route par rapport à. Sur plein de vélos. Beaucoup
sur un vélo aussi, c'est très revendicatif, mais c'est plus.
C'est plus complexe. Non, mais je veux dire, par rapport au fait.
Il y a une masse critique aussi du nombre de gens sur un vélo.
Oui, moi je vois que tu m'as tout à fait compris, mais je n'assisterai pas.
Et j'ai vu qu'il y a des bandes dessinées dedans ou c'est. Non, c'est des photos.
C'est des photos en fait.
Ah ouais.
Donc c'est noir et blanc, et puis t'as des choses plus ou moins.
Voilà. D'accord.
Mais il est tout seul à faire Torboyau le gars qui fait
ça. Je pense qu'ils sont deux. Il y en a un qui prend les photos et l'autre qui écrit. Voilà. Et donc il a appris libre. Et au niveau du disque qui est disponible avec le fanzine, il y a aussi la version PDF du fanzine. Donc ça, c'est original.
Comme
c'est
ça, un peu comme par mail.
Voilà. Donc ça, c'est bien.
Et on peut le trouver
voilà.
À la fanzinothèque, bien sûr.
À la fanzinothèque, vous pouvez venir le lire, l'emprunter. Et sinon, vous pouvez le commander à Torboyau. Xavier Barbary, 1 boulevard Hérault à Angers, 49100 Angers. Et sinon, il y a un mail, peste.choléra@wanadoo.fr. Voilà, donc c'est prix libre, c'est assez sympa. Sinon, j'avais un deuxième fanzine, donc là, ça n'a rien à voir. C'est un A414 pages, très beau, qui
donc
vient de...
collé.
Très, très beau.
Magazine, presque.
Ça fait vraiment magazine, sauf que c'est toujours dans la lignée vraiment du fanzine. C'est le numéro 17, ça s'appelle Last Hours. Donc, le numéro que j'ai ramené, il date de cet été. Et en fait, le thème, c'est l'illustration radicale. Donc, il y a une interview de Josh McPhee, une de Nicky McClure et une de Alan Moore. Il y a aussi beaucoup de choses. C'est un zine qui est vraiment très, 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 très fouillé, très, très riche. Il y a beaucoup de gens qui doivent participer à ce zine, je pense. Il y a une interview de Fall of Ephrafa, il y a des chroniques de BD, de disques, de livres, de fanzines. Il y a un article que j'ai bien aimé sur les techniques DIY de conservation des aliments. Voilà.
Ah oui, comment faire sécher ses légumes, faire des super conserves qui ne moisissent pas, tout ça.
Parce qu'au-delà de faire de la récup et puis de préparer ses plats soi-même, on peut aussi les conserver soi-même.
Vachement. Sans frigo, sans dépenser d'électricité, tout ça.
Tout à fait.
Ah, wow.
Sans mettre dans des boîtes en plastique qui polluent.
Dans le principe, ça me fait penser, ce qu'on a déjà parlé plusieurs fois, parce que j'avais emprunté la Fanzino, justement, c'est Chéri Bibi.
Ouais.
Peut-être dans l'esprit, je sais pas, tu dis qu'il y a plein de. C'est assez éclectique au niveau des formes que ça traite, puis même la forme
la
elle-même,
forme,
ouais, c'est vrai, carrément. Ouais.
Et voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, il y a un article sur comment fabriquer sa propre colle à papier peint, pour faire de l'affichage.
De la farine.
L'amidonderie.
L'amidonderie.
Elle est balèze, Hélène.
Non, mais tu sais, il y a eu des collèges.
Pardon?
Non, j'ai rien dit. Mais on peut. Ouais, c'est bien avec l'amidonderie. Mais je crois que dans la colle à papier peint, il y en a beaucoup quand même.
Ouais. Mais c'est toujours bien de. Enfin voilà, pour se débrouiller au dernier moment, c'est cool. Il y a quelque chose sur le téléchargement illégal par rapport à ça, à ce sujet-là. Et puis, il y a aussi un article sur le mouvement Riot Girls et puis sur Crass. Et ça m'a vachement surprise parce que l'article sur Crass, en fait, c'est un mec qui n'aime pas Crass.
Crass, le groupe de rec ?
Le groupe punk a influencé vraiment tout le mouvement fais-le toi-même avec tes petites mains.
Il y a eu des bouquins de Crass, non ?
Ouais. Chansons d'amour, édité par Retrut.
Ouais, c'est ça. Ouais. De Toulouse, c'est ça ?
Grenoble.
Grenoble, ok. Donc, très beau fanzine en plus. Donc là, j'ai passé une grosse commande. Donc j'ai tout plein de numéros de Last Hours. Donc ils sont tous aussi riches et beaux. Voilà.
Et tu veux dire qu'on peut juste les emprunter ou aussi les acheter si on les aime beaucoup ?
Alors, il y a un site internet où on retrouve aussi le fanzine. Attends, faut juste que je retrouve. Mais je pense que si on tape Last Hours sur internet, on le trouve sur un moteur de recherche. Je vais pas dire de bêtises. De toute façon, je pourrais mettre les infos à ce moment-là sur le site de l'émission.
Oui, dès qu'il sera mis à jour, très bientôt.
Ok. Ah voilà, c'est ça. C'est lasthours.org.uk. UK.
Voilà. Because it's londonien. Et moi, je voulais parler aussi d'un petit fanzine. Mais on écoutera de la musique juste après, promis, parce qu'on papote depuis 10 minutes, là. D'un petit fanzine que j'ai trouvé au Feu Rouge. Je pensais qu'il ne se diffusait que par PDF sur Internet. Assez lourd, d'ailleurs. Ça s'appelle Ma grosse marmite, numéro 2.
Et c'est une très grosse marmite.
C'est une grosse marmite.
C'est vraiment une grosse marmite. Il est super bien, imprimé sur du joli papier craft en photocopie, avec une technique de pliage que j'aime beaucoup dans les fanzines, qui permet d'avoir une face poster quand on le déplie. C'est-à-dire que ça implique qu'on fasse un trou, enfin qu'on coupe une partie des pages, mais on vous montrera, si vous trouvez ma grosse marmite, vous comprendrez le cistus, qui permet d'un côté de feuilleter son fanzine et de l'autre le déplier magistralement et de le lire par exemple à une table de café avec plein de gens autour, parce que c'est un peu dans tous les sens. Et donc ma grosse marmite, en fait, c'est le fanzine de la fanzinothèque.
Ouais.
Et c'est pas mal du tout pour être au courant un peu des dernières arrivées de fanzine, de la vie de la fanzinothèque, des petits conseils de trucs à lire qui tiennent en deux lignes. Ça, j'aime beaucoup. Enfin, c'est beaucoup de choses comme ça, c'est éclectique, mais c'est pas du lèche-botte, mais vraiment bravo. Je trouve ça très agréable de tomber là-dessus.
Merci.
C'est très vivant. Non, c'est vrai. Ça donne des infos de la fanzino, ça donne des choses à voir, à lire. Et en plus, c'est plutôt joli, c'est bien fait à la main, découpé, collé. J'imagine qu'il n'y a pas un seul logiciel de mise en page là-dedans.
Non,
ouais, ça se voit.
Ah non,
mais c'est un compliment.
Mais combien d'ingénieurs pour le pliage ?
En fait, le but c'était de parler vraiment de faire une information sur l'actualité du fanzina. Donc en fait, ça on l'envoie par internet, même si c'est un petit peu lourd. Elle est accessible aussi directement à télécharger sur notre site internet www.fanzino.org. Et puis sinon, si vous voulez le format papier, vous pouvez venir à la Fanzino le chercher.
C'est gratuit.
Tout à fait.
Et dedans, vous parlez, donc c'est peut-être une annonce un peu précoce, mais quand même des 20 ans de la Fanzino en mai.
Ouais, voilà, ce sera la semaine du 11 mai, surtout du 14 au 16 mai 2009, et on prévoit une rencontre internationale de Fanzinothèque. On prévoit aussi des concerts, on prévoit des expositions, enfin, ouais, ce sera bien.
Ce sera en mai, on reparlera en mars, en avril et en mai.
D'accord.
Musique.
Yeah!
Désolé. La dernière fois, j'ai amené un truc plus gay quand même.
Désolé de couper le morceau.
C'est bon, on ne s'est pas suicidé.
On continue sur les fanzines avec.
Mais on rappelle qu'on écoutait Griffe.
Griffe, pardon.
Et Griffe, pas comme Griffe, la griffe du chat en français. Griffe comme grief.
Ouais, voilà, c'est ça. Tout à fait.
Ah non, mais il fallait préciser.
Ouais, mais j'ai regardé dans le dictionnaire, en anglais, en fait, ça veut dire chagrin, et en fait, ça se prononce, comme, ça se dit pas grief, ça se dit grief.
Grief.
C'est un il. Ouais.
Comme Charlie Brown, il dit toujours good grief.
Voilà.
Je sais plus comment c'est traduit en français, ça dépend du traducteur.
Bon chagrin.
Mais je crois que c'est non, chagrin,
ça veut...
non
ouais, mais ça veut. Good grief, c'est une expression, je suppose, ça veut dire. Ils mettent, je sais pas, des fois, oh bon sang, enfin, tu as le truc de dépit, oh, merde. Encore une tuile.
Non, c'est good grief, ça veut dire, ouais, viens au concert samedi.
Ouais, voilà. Viens au concert samedi.
Grief, c'est bon. Et je voulais juste insister sur Last Hours parce que je le feuilletais pendant qu'on écoutait Grief. Mmh. Et c'est vraiment. Ça, c'est vraiment de la.
La non, balle.
La balle de fanzine, c'est dingue. Il y a 2,50 livres pour ça. Et ouais, il y a tout dedans, c'est trop beau. J'ai pas lu parce que c'est en anglais, donc je comprends rien, mais c'est beau.
Non, mais c'est facile à lire en fait. Si tu t'y penches
en
un
plus,
peu, ça...
c'est de l'anglais français. Non, ouais, c'est... moi je croyais qu'il y avait rien à London comme truc underground, et rien qu'en ouvrant Last Hours, il y a 3 chroniques qui disent bah voilà, Nottingham dessinait telle boutique de disques, telle boutique de livres. C'est, ouais, c'est... Voilà, ça prouve qu'il y a un milieu vivant et. Je ne les soupçonnais pas du tout.
Et il y a à Londres, tu as un infoshop qui a l'air bien aussi, qui s'appelle 56A. Et je pense que j'en reparlerai, je vais les contacter dans pas longtemps.
Voilà. Qu'est-ce que ça s'active là.
Et alors aux States, qu'est-ce qu'il y a comme underground?
Time to speak about New York, guys. Ok. Bon, parce que vous n'avez rien compris. Bon, je vais traduire.
Non.
Il est temps de parler de New York, ça. Les amis, des compagnons. Et oui, parce que j'ai, bon, bref, ramené des petits fanzines de là-bas. Et je n'aurais peut-être pas le temps.
Ouais, parce qu'on est là pour ça, on a les sous pour envoyer des chroniqueurs à perpète.
Ben voilà, avec l'argent public, bien sûr, parce que voilà quoi. Pourtant, faut pas s'embêter, c'est comme Daniel Mermet ici, on gaspille la taxe, comment on dit
La taxe Tobin.
Ouais, voilà, tiens, la taxe Tobin de l'audiovisuel. N'importe quoi. Non, bon, allez, j'étais clandestine dans un avion et j'ai ramené des super fanzines. Parce que quand même, à New York, il y a une sacrée scène underground, malgré ce que peuvent en dire des dessinateurs que j'ai pu rencontrer là-bas, qui, genre, pour ne pas les nommer, Tom Hart et Lina Corman, hein, qui sont de sacrés auteurs, qui crachent dans la soupe allègrement en disant « Mais non, New York, c'est nul, la France, c'est vachement mieux. » Bon, c'est vrai, quand on écoute Cécile, on a l'impression que...
Que Londres, c'est vachement mieux.
Que Londres, c'est vachement mieux. Bah, aujourd'hui, non, mais qu'à la Fonzino, avec tout ce qu'il y a, que oui, on a une sacrée scène aussi en France, mais franchement, à New York, moi, j'ai fait des heures dans des librairies. Il n'y a pas énormément de bonnes librairies, mais bon, on en déniche quand même quelques-unes. Et donc, ouais, il y a une scène de small press, comme on dit là-bas, et même des festivals de fanzines. Au revoir, Cécile.
Au revoir.
Salut, Cécile.
Dis au revoir, Cécile.
Et bah oui, un programme des concerts, il faut les préparer après.
Salut, c'est ça.
Salut. Et donc, ah bah, il n'y a plus de son.
Comment ça, il n'y a plus de son?
Il n'y a plus de souffle. Donc, à New York, il y a beaucoup de gens qui font des fanzines, et je vais en présenter juste une petite sélection, notamment un de Sarah Glidden. Glidden, ça s'écrit G-L-I-D-D-E-N. Sortez vos crayons pour noter ensuite les sites internet, parce que c'est des trucs qu'on ne trouvera pas en France. Sarah Glidden, elle a fait un fanzine qui s'appelle How, avec l'accent, How to Understand Israel in 60 Days or Less. Traduction, comment comprendre Israël en 60 jours ou moins. Et bon, on pourrait penser que c'est un fanzine assez politique. On peut aussi se douter, d'après le titre, que la dénommée Sarah Glidden est allée en Israël pour peut-être 60 jours ou peut-être moins. Et que, enfin voilà, elle va raconter son voyage, mais pas seulement. Parce que donc l'histoire, c'est que si Sarah Glidden est allée en Israël, c'est parce que elle est américaine et elle est aussi juive américaine, bien que finalement assez peu pratiquante, elle le dit dès le début. Mais elle est allée en Israël parce qu'elle a profité d'une bourse qui s'appelle, c'est pas le Burst Trip, mais c'est quelque chose comme ça. Un voyage qui est en fait payé par une organisation juive qui collecte des fonds de donateurs et des fonds publics de, je sais, j'ai pas très bien compris quoi, ou j'ai pas retenu, pour envoyer des jeunes gens en Israël, des jeunes gens de confession juive, c'est réservé aux jeunes juifs, genre moins de 30 ans, quelque chose comme ça, et puis même avant qu'ils partent, on leur pose quelques questions, genre est-ce qu'ils connaissent un petit peu leur catéchisme, quoi. Et la jeune Sarah Glidden, elle s'est dit, bon, je suis pas trop... pas trop curé, tout ça, enfin, pas trop rabbi, tout ça. Et... Mais, ma foi, j'aimerais bien comprendre un peu mieux ce qui se passe avec Israël. En plus, quand on est, je pense, américaine, juive américaine, on peut se demander ce genre de questions. Et donc, y aller en ayant potassé quand même quelques bouquins sur le conflit israélo-palestinien et en se disant, bon, préparons-nous au bourrage de crâne. On va bien voir ce qu'on va nous raconter là-bas. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle raconte des choses ben, comme un voyage organisé, puisque ce trip, ce burst trip, c'est un voyage en car avec des jeunes gens qui se mélangent et on va leur faire traverser. Ben, le premier, c'est The Golan Heights, donc le mont Golan, je pense. Golan, je crois.
Golan, on dit, ouais.
Pas loin, enfin, elle parle aussi de la bande de Gaza qui est peut-être plus médiatisée comme enjeu de conflit, mais le mont Golan est aussi une terre.
Battu et rebattu par de divers camps.
Voilà. Et elle lui dit d'ailleurs dès le début, dorénavant, pleine de mines et quasiment impraticable, mais toujours l'enjeu de, d'âpres conflits.
D'ailleurs, les gens natifs du plateau du Golan sont un des seules populations qui est apatride, en fait. Sur leur passeport, ils n'ont pas le passeport israélien, mais ils ne reconnaissent pas la nationalité israélienne. L'État israélien ne reconnaît pas leur nationalité. C'est très étrange.
C'est pratique. Voilà. Mais ceci dit, ça tombe bien, il y a vachement moins d'habitants avant, genre il y en avait 400 000 et maintenant il y en a 50 000. Donc,
mais en même temps,
ça concerne de moins en moins de gens, donc tout va bien. Non, je passe un petit peu vite là-dessus parce qu'on n'aura pas le temps de raconter toute l'histoire, mais effectivement, oui, c'est intéressant parce qu'on a des éléments politiques qui ne sont pas en grosse tartine, parce que le dessin de Sarah Glidden est assez classique. Moi, il m'a fait beaucoup penser au dessin d'Ariane Pinel, une Française. Presque entre Tintin et des choses dessinées un peu plus vite quand même, mais un gaufrier de 6 cases à chaque fois, et en même temps elle raconte un voyage avec des jeunes gens.
9 cases même.
9 cases, n'importe quoi, oui. Pardon, format A5, c'est 9 cases. Et, non mais c'est l'américain, ça m'a perturbé. Et donc, ce que j'aime bien, c'est les rappels politiques pour quelqu'un qui, comme moi, a depuis longtemps renoncé à comprendre ce qui se passait en Israël. Et aussi le côté, j'ai envie de me faire un jugement, je suis peut-être dans un terrain hostile, peut-être pas, parce que finalement le guide dans le car, qui à un moment les amène donc sur le mont Golan devant une séance de cinoche parfaitement propagandiste, certains jeunes gens dans le car trouvent ça non, sympathique, bien et tout, et elle est super remontée, peut-être un peu trop, enfin elle essaie de se calmer, mais elle va voir le mec, et elle lui lâche que quand même ça pue un peu, et il concède, il dit oui effectivement, et je dirai un truc là-dessus tout à l'heure, et après il reprend la parole dans le car en disant bah, c'était quand même un film que je considère personnellement comme de la propagande, et on peut en discuter, et ils n'arrêtent pas de dire, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, etc. Mais le but du voyage est quand même de la fondation, et plutôt de dire on a envie que les juifs de tous les pays du monde se sentent israéliens et éventuellement deviennent colons. Enfin, ça, c'est le sous-entendu qu'on pourrait y voir, quoi. Donc voilà, How to Understand Israel in 60 Days or Less. Pour l'instant, deux épisodes sont parus, puisqu'elle les fait paraître en petit comics, pas cher, hein, $3. Et on peut peut-être les commander sur son site à Sarah Glidden. Le site, c'est smallnoises.com. Ouais, parce qu'en américain, on dit pas point, on dit dot.
Ça me fait penser à un...
Comment ça pète
c'est dingue. Ça me fait penser à un film, en fait, qui était sorti il y a quelques temps, qui était sorti en festival et qui a eu la chance de bénéficier un peu d'une petite sortie en salle, qui s'appelait Odessa, et qui parlait justement de qu'allait filmer des juifs, un peu des communautés juives un peu partout dans le monde, qui partaient d'Odessa. Pardon. Ils partaient d'Odessa et qui allaient ensuite à New York, en Israël, etc. Et qui étudiaient justement, enfin de façon assez jolie aussi, le rapport qu'ils pouvaient entretenir justement le peuple juif, entre guillemets, avec la terre promise, l'Israël, ou pas du tout, ou des fois bien, etc. Mmh. Et c'était assez joli parce que c'était soit des gens qui rêvaient de partir là-bas parce qu'ils se disaient que c'était bien, soit des gens là-bas qui se rendaient compte que c'était pas forcément mieux, c'est pas parce que c'était la terre promise de je sais pas quoi que c'en était pas un état... un peu fascisant tout de même, donc c'était un, c'est assez voilà. Enfin, si jamais vous avez l'occasion de tomber dessus, Odessa, c'est un très beau, très bel essai documentaire et assez beau esthétiquement sur justement cette condition-là, quoi, d'apatride permanent et de recherche de ce que ça doit être. Enfin, tu vois, j'entendais le programme, je sais pas trop comment il s'appelle le programme là pour aller rejoindre Israël, mais du coup, enfin, c'est enfin, Israël, personne n'est né en Israël. Enfin, si, il y en a des qui sont nés en Israël, mais les gens, c'est pas parce que t'es juif que t'es pas forcément Israël. Enfin, toute la complexité de la chose, quoi. C'est assez intéressant.
Toute la complexité de toute l'ambiguïté de ce truc de dire peuple juif.
Oui, voilà,
quoi.
Justement. Enfin,
ça regroupe plein de réalités qui sont pas forcément un peuple, justement.
Voilà, qu'ils ont des histoires et des trucs tellement dissociés, disparates dans le monde
entier.
C'est comme
entier, si, c'est vrai que le dire, nommer un peuple en fonction de sa religion, dire peuple catholique ou peuple protestant, ça paraît vraiment vraiment de sens.
Après, ils ont une histoire qui serait celle, voilà, enfin bon...
Oui, ouais, après, oui, c'est vrai qu'il y a d'autres notions. Voilà. Qui que, ouais.
Mais bon, c'est tout à fait, enfin voilà, du coup, je... en complément de How to Understand Israel, Zioté, Odessa, Odessa, ça vaut le...
Un autre sans île,
un autre vite fait.
Oh, d'accord, j'arrête.
Bon, encore une meuf, tiens, de toute façon, j'ai beaucoup de fanzines de filles. Inside Vinyland. Alors là, je ne sais pas du tout comment le prononcer en américain.
Vinyland.
Vinyland.
Ça fait un peu comme Disneyland, en fait.
Ouais, un petit peu. Et c'est un zine de Lorraine R. Weinstein.
Ah, c'est une seule personne qui a fait tout ce truc.
Et oui, c'est une seule personne.
Ah ouais, d'accord.
On dirait une espèce de magazine, pareil, de carré collé, couverture couleur, avec un dessin à première vue un peu mochasse.
Ouais.
Les couleurs aussi.
La vache.
Mochasse.
Mais oui, sans rire.
Non, mais enfin, mais disons qu'on a. Enfin,
c'est chargé, il y a des petits traits.
Il y a une tendance quand même dans la bande dessinée américaine récente d'assumer le côté mal fichu, ou en tout cas de dire je me dessine mal, mais je m'en fous, ou même carrément plus loin, d'en faire un style, quoi.
Et ça, c'est un peu ça. C'est limite néo-rococo quand même, là, votre.
La couverture, oui. Après, à l'intérieur, il y a des choses très différentes.
Ah oui.
Il y a des pages couleurs. Parce qu'il y a une
histoire. Ah, c'est pour
de
ça que je pensais qu'il y avait plein de gens en fait, qui l'avaient fait. Ouais.
Non, ouais. Ça joue juste le jeu du fanzine comme les recueils, bah, même des Marvel, tu sais, où des fois t'as des couvertures à l'intérieur, différents épisodes. C'est imprimé sur ce papier bouffant un peu crème, et puis à côté il y a du papier plutôt couché, un peu plus brillant. Il y a des histoires qui sont des histoires absurdes, genre du Glenn Baxter en mieux, en beaucoup moins répétitif. Il y a aussi des. Je sais pas comment dire, c'est... ce que j'aime beaucoup, c'est que ça pourrait ressembler à ce qui se fait un peu quand on aime bien le fanzine et qu'on est aux Beaux-Arts et que voilà, on a envie de. Qu'on est américain et qu'on est aux Beaux-Arts, on va dire. Et qu'on a envie de faire des trucs.
Au Fine Arts, tu
un
veux
peu
dire
délirant. Ouais, voilà, Fine Arts School. Et en fait, il y a des histoires. Toujours sur le fil, un robot avec un accident de voiture qui se fabrique des trucs avec des machins électroniques pour combler un vide affectif patent. Il y a aussi, je sais même pas comment décrire ça. C'est des dessins, bon, la plupart du temps en noir et blanc, un peu avec un côté vieillot, vieille illustration, des histoires de chiens dépressifs, mais le tout toujours drôle, quoi. Et vraiment, et des beaux paysages de temps en temps, driving in the Pacific Northwest, comme ça, des petites pages un peu gratuites. En fait, il y a un côté très libre que j'aime bien, que je trouve. Places where you could get killed in the Litchfield Hills, Connecticut. Elle montre des endroits, des très jolis croquis de recoins sombres avec des flèches, les endroits où tu peux te faire tuer. Et après, il y a places where you still could get a blowjob in my rapidly gentrifying neighborhood.
Très bien.
Donc des endroits, des petits coins où vous pouvez toujours vous faire tailler une pipe dans mon petit quartier qui se gentrifie, qui se boboifie rapidement.
Ah,
pour la traduction. Et puis effectivement les flèches c'est très précis. Hein.
Oui, c'est vrai que c'est assez précis quand même. Hein, c'est...
Ouais. C'est ce qu'on appelle le croquis d'observation. Non, sans rire, j'ai vraiment beaucoup aimé Inside Vinyland. Alors, je ne sais pas du tout si c'est traduit en français. Si ça, en fait, c'est j'ai dit américain, mais je me demande si c'est pas canadien. Bon, il faut visiter vinyland.com. Pardon.
Mais il a bénéficié d'une Xeric, d'une bourse de la Xeric Foundation, donc c'est peut-être américain.
Et c'est distribué par Alternative Comics. Donc, ouais, site internet, je notez-le tout de suite, hein, vinyland.com.
Vinyland.com.
Et un peu de musique pour une pause, quand même. Non, t'as pas préparé de disque?
J'aime dans le cinéma lorsqu'Eisenstein introduit avec le cuirassé Potemkin le symbole social. Une foule se dissipe en s'écrasant, fusillée sur les marches par une armée qui vient rigide comme le tank inhumain de la fatalité grecque. Le contraste entre une voiture d'enfant qui se dégage seule du désastre et les bottes cadencées des soldats apporte la révélation de l'histoire révolutionnaire. Je n'aime pas les imitateurs d'Eisenstein. Nous connaissons la découverte de Chaplin qui introduit la première allusion indirecte dans l'opinion générale. Au lieu de montrer le train qui part, on voit les lumières des fenêtres du train se dérouler sur un visage de femme. Le cinéma m'intéresse à cause de l'image surréaliste du chien andalou de Buñuel. La lune, coupée par un nuage, est comparée à un œil sectionné par un rasoir. De l'orbite, l'iris écœurant vomit comme une goutte de pluie.
Et nous savons tout ça.
Oui, on sait. Chapeau.
Oh, les patrons de la salle. Vogel, quoi. Je voulais simplement dire que je ne veux pas faire des films en profitant des erreurs des autres. Je veux, pour le salut de mon âme, courir mes propres dangers. Je veux un paradis ou un enfer pour moi tout seul. égoïste, arrêtez de bourgeois. Je crois premièrement que le cinéma est trop riche. Il est obèse. Il a atteint ses limites, son maximum. Au premier mouvement d'élargissement qu'il esquissera, le cinéma éclatera. Sous le coup d'une congestion, ce port, rempli de graisse, se déchirera en mille morceaux. J'annonce la destruction du cinéma, le premier signe apocalyptique de disjonction, de rupture de cet organisme ballonné et ventru qui s'appelle film. Les films d'aujourd'hui ont quelque chose d'achevé, de parfait et de tranquille. Cela résulte de l'harmonie des éléments de composition, de l'unité classique entre les parties constituantes, paroles, images. Pour conquérir, il faut rompre. Il faut renvoyer une fraction de la famille, la plus jeune, en avant-garde, qu'elle essaie de défricher dans ce mouvement d'indépendance ses propres espaces.
Comme dans l'émigration ou dans les conquêtes impérialistes.
Oui, il faut déchirer les deux ailes du cinéma, le son et l'image.
Boucher !
On doit casser cette association naturelle qui faisait de la parole le correspondant de la vision ou le commentaire spontané engendré par la photo. Je voudrais séparer l'oreille de son maître cinématographique, l'œil. Je veux plaquer sur une pellicule une masse hurlante sans rapport avec les scènes de l'écran. On doit rendre indifférent le déroulement des images par rapport à l'histoire sonore terrible qu'on projettera, qu'on lancera dans l'obscurité de la salle. Il faut couper la liaison avec la succession des photos, cohérente en elle-même, peut-être, mais de toute façon incohérente vis-à-vis du sujet des bruits.
Piètre pitre ! Piètre pitre !
Voilà.
Hop, hop, hop. Désolé.
C'était, qui était cet hurluberlu ?
Qui était cet hurluberlu ?
Mais comment ça se fait que ça s'arrête comme ça, ça ? C'est bizarre.
Alors cet hurluberlu était en fait un extrait de la voix qui nous accompagne dans le traité de Bave et d'éternité d'Isidore Isou, qui vient grâce aux merveilleuses éditions Revoir, dont on a censé de louer de faire des éloges dans cette émission. On avait parlé d'ailleurs du Lit de la Vierge de Thierry Garrel, je m'en rappelle, et d'autres et autres. Philippe Garrel, pardon, pourquoi je dis Thierry Garrel, c'est l'autre, le moins bien. Ouais. Et en fait, voilà, Revoir vient de sortir enfin ce film qui est absolument introuvable, puisqu'il a très très peu circulé, parce que aussi on avait perdu les positifs 35 mm, qui étaient très très abîmés. Donc Revoir, avec un travail avec le service d'archives des films de français, a réussi à restaurer un internégatif, enfin je vous ai épargné tout le bordel technique. Et donc on vient d'écouter donc le projet d'Isidore Isou, en gros, c'est que c'est son premier film d'Isidore Isou, donc pour ceux qui ne se rappellent pas bien, Isidore Isou était un des précurseurs, un des maîtres du lettrisme, donc qui a succédé au surréalisme, le lettrisme va ensuite engendrer le situationnisme et autruisme. Et donc le Isidore Isou qui avait fait beaucoup de travail, donc le lettrisme, il travaille beaucoup sur la lettre,
même en peinture en fait. Ouais.
Mais tu veux peut-être nous en dire deux mots ?
Non, pas du tout.
D'accord.
Vraiment, c'est toi qui
connais. Et donc, du coup, Isidore Isou avait écrit un esthétique du film dans ses bouquins et qu'il a décidé de mettre en application pour faire le traité de Bave et d'éternité.
D'ailleurs, il y a un livre, le traité de Bave et d'éternité, non ? Il n'a pas fait un bouquin
Je crois qu'il y a un bouquin, moi, qui est en fait tiré de ses travaux qui ont été faits pour le film, en fait.
D'accord.
Voilà, en fait, le titre a vraiment été donné pour le film.
D'accord.
Il voulait un truc un peu gastéropode, comme il l'a dit lui-même. Mm-hmm. Qu'on veut buer les gens. Et donc, en fait, c'est un projet fort intéressant, tout de même, ce traité de Bave et d'éternité, puisque je sais pas si vous avez remarqué, il cite quand même du Eisenstein, du Buñuel, il cite aussi au tout début, en fait, du film, on a un petit carton qui nous dit: chers spectateurs, attention, vous allez voir un film discrépant, aucune recommandation ne sera admise par la direction et aucun remboursement. Merci. Donc, au cas où, comme ça, il prend les gens pas au dépourvu, et ensuite, il cite une liste, ce film est dédié à, chez Griffith, Chaplin, René Clair, Von Stroheim, Flaherty, Buñuel, Cocteau, et j'en passe beaucoup d'autres.
Faut peut-être préciser ce que c'est que la discrépance.
Et donc, voilà. Donc, le projet de Isidore Isou, c'est avant tout de faire un cinéma discrépant. C'est-à-dire qu'il a décidé de séparer une bonne fois pour toutes de vouloir créer du nouveau. Pour lui, le cinéma était enlisé dans quelque chose qui n'avançait plus, qui était fatigant, etc., etc. Et donc, il a décidé de créer le cinéma discrépant, c'est-à-dire créer une bande-son qui soit complètement à l'écart de la bande-image et d'assister et de pouvoir voir ce qui allait se créer entre les deux en fonction d'une création dissociée. Et donc, ce qui n'est pas tout à fait vrai quand même, quand on regarde le film, on se rend compte qu'il y a... Et en fait, pour cela, il va utiliser plein de procédés, c'est-à-dire qu'il va retourner la pellicule à des moments, il va faire du gratté, de l'arraché de pellicule, de la dilution, de tout ce qu'on veut. Et il va faire une histoire, il va raconter une espèce d'histoire de ce Daniel, donc le Daniel qu'on entendait parler, en fait, sur quelqu'un qui se révolte contre le marasme cinématographique ambiant, et on va le voir déambuler dans Saint-Germain-des-Prés, etc., surtout dans Saint-Germain-des-Prés, et avoir une histoire, etc. Et voilà, et donc en fait, en première partie, donc c'est divisé en différents chapitres, et dans le premier chapitre, il raconte le projet cinématographique qui est en fait celui d'Isidore Isou, pour créer un nouveau cinéma qui sera un cinéma qui révolutionnera tout ça, etc., etc. Voilà, donc c'est un film assez impressionnant, puisqu'en fait, il est en train de tout simplement d'inventer toutes les techniques qui vont être utilisées. Il emprunte plein de techniques, dont le gratté de pellicule, la dilution, des procédés aussi rythmiques qui seront encore empruntés beaucoup. En fait, il y a des passages, on songe carrément à Lenlai, qui avait quand même fait ça déjà dès les années 30, carrément, Lenlai, 30-40, quand même.
Ouais, c'est ça.
Et donc, il y a des moments comme ça de gratté de pellicule avec des sondes rythmiques, mais du coup, avec des poèmes lettristes récités. Donc en fait, voilà, il récupère un truc, mais il détourne pour en faire autre chose. Il y a pas mal de gratté, d'inversion de pellicule, mais lui, voilà, ça avait déjà quand même été un peu fait, de l'inversion de pellicule, donc mettre la pellicule à l'envers, c'est-à-dire qu'on la passe à l'envers, c'est-à-dire que le mouvement est à l'envers, mais aussi les gens ont la tête en bas. Et donc à chaque fois,
les trucs sont écrits à l'envers aussi ou pas ?
Non, les trucs sont écrits tout droit.
Pour le coup, c'est pas complètement tout.
Voilà, c'est pas tout à l'envers, c'est des jeux d'aller-retour. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que du coup, tout ce qui est en train de se dérouler, bah, des fois, ça se raccorde les uns sur les autres et ça se sépare, ça oscille comme ça constamment entre le rapport entre l'image et le son. Et ça donne une expérience tout à fait fort étonnante puisque ça a inspiré tout, notamment les situationnistes. En fait, les films de Guy Debord, c'est quand même...
Debord était d'abord lettriste en fait, et après.
C'est ça. L'anecdote veut que en fait, Isidore Isou, quand il a présenté pour la première fois son film, en fait, c'était au Festival de Cannes, oui tout de même, et en fait, qu'il avait été invité par l'avant-garde parce qu'il était quand même beaucoup soutenu par Cocteau et puis et Lemaître, Maurice Lemaître à l'époque, qui était très important. Et il a d'ailleurs assisté un peu au film Maurice Lemaître. Et en fait, comme il faisait la bande son et la bande image séparées, et ben du coup, en fait, c'est divisé en trois chapitres. Et en fait, il avait fait la bande image que du premier chapitre. Donc en fait, les mecs se sont tapés donc un pamphlet anti-cinéma. Donc tous les professionnels de la profession du cinéma sont un peu pris tout dans la gueule en leur disant, bah, vous êtes tous moribonds, là, va falloir se réveiller. Et tout le reste du film, ils se sont tapés une heure de son sans image avec une pellicule noire qui tournait parce que il a fait bon, je vais ramener de la pellicule noire, ça, ils vont être contents quand même. Et donc tout le monde a crié au scandale, même Cocteau ne savait pas trop s'il devait
applaudir
ou du coup il a été pas super, il savait pas trop quoi. Il paraît même qu'il a été giflé par la responsable à l'époque du ministère de l'éducation au cinéma pour les enfants, qui s'est levé et qui l'a giflé, par exemple tout le monde a fait un scandale. Et voilà, donc ça a été très drôle, en fait ça a passé ensuite au studio de l'Étoile où il avait fini de monter la pellicule Image. Mais bon, voilà. Donc, il faut savoir qu'au Festival de Cannes, ils l'ont quand même attribué un prix. C'est-à-dire que tout le monde l'a hué dans la salle, est parti en courant, mais Cocteau a décidé de lui attribuer le prix qui n'existe plus au Festival de Cannes, qui s'appelait le prix de l'avant-garde. Et qui était décerné par de ce qu'on considérait comme l'avant-garde littéraire, artistique, musicale, cinématographique de l'époque, et donc qui a été décerné à l'époque par Cocteau, qui faisait partie un peu tout en même temps, donc c'était pratique. Et voilà, qui lui a décerné, mais qui savait pas trop, en fait, comme il savait pas trop s'il devait l'appeler.
Bon, on part maintenant.
Et voilà, donc Isidore Isou a été un peu retourné par tout ça. Il a continué à faire des films après qui ont été beaucoup moins connus.
Moins longs.
Je ne connais pas du tout ses autres films, en fait, bien honnêtement. Je pense que. Voilà, c'est une expérience fort étonnante. Et donc, en fait, l'anecdote, donc ces images, l'image noire avec le son qui raconte une histoire, et bien, c'est inspiré tout simplement de Bord pour faire son hurlement en faveur de Sade, qui est bien connu. Et donc, ensuite, aussi, les premières scènes, on voit clairement que. Le premier chapitre a inspiré beaucoup de passages, beaucoup de films de Debord, notamment sur le passage de quelques personnes à travers une courte unité de temps. C'est carrément un truc très
très proche,
très très proche, à part en fait finalement dans le dans l'énonciation qui du coup est inspiré beaucoup, qui est inspiré situationniste et moins lettriste que Kiss de Rizou. Voilà, c'est un truc très très chouette, qui voilà, qu'en fait qui a révolutionné le cinéma. Et j'ai l'impression qu'on a un peu oublié quand même tout ça parce que c'est
vraiment... c'est pas révolutionné, mais en même temps c'est pas oui, enfin oui. Okay, mais disons, enfin disons, en tout cas lui ce qu'il a voulu faire, c'est pas ce qui est peut-être bien, c'est que ça reste peut-être révolutionnaire encore aujourd'hui, quoi.
Oui, c'est voilà, ça. C'est ça est... c'est,
enfin, peut-être pas dans le cinéma d'avant-garde, justement le cinéma expérimental, mais en tout cas dans le cinéma, lui faisait du cinéma pour qu'il soit montré en salle, enfin d'une manière peut-être, enfin je sais pas, non, qu'est-ce que t'en penses?
C'est-à-dire,
je sais pas, je pense qu'Izu il a fait son film pour qu'il soit, il est allé à Cannes et tout, enfin il voulait que le montrer en salle et qu'il y ait plein de spectateurs qui aillent le voir, enfin tu vois que il le destinait pas à un circuit expérimental qui peut-être n'existait pas d'ailleurs à l'époque, hein, j'en sais rien, mais
il y avait tout de même un circuit expérimental à l'époque, donc était relayé par les avant-gardes, notamment à Paris, mais c'est vrai que ce qui est fort étonnant, c'est qu'il date quand même de 52 ce film, et il a été oublié assez longtemps. Et y a des choses qui perdurent, en fait. Mais en fait, ce qui a été beaucoup repéré à Isidore Izu, c'est quand même qu'il était, on va pas dire mégalo, mais presque, et toutefois très, très, très prétentieux. Alors qu'en fait, au début du film, il se dit, j'espère que... Donc, il cite la liste là, des réalisateurs que j'ai cités tout à l'heure. Et après, il se dit, j'espère que je serai un jour accueilli dans le Panthéon auprès de ces grands hommes. Et il paraît que, par contre, lui, quand tu le voyais en vrai, beaucoup de gens pouvaient pas le supporter, a priori même pas grand monde. Tout le monde reconnaissait son talent, mais tout le monde l'engueulait.
En lettriste aussi, il y avait Maurice Lemaître, donc, qui a fait Le film est déjà commencé, qui a été édité par Revoir aussi.
Voilà, et qui était en fait assistant réalisateur sur
D'accord,
de l'éternité.
Mais le film a déjà commencé, donc moi je l'ai vu aussi. Pour le coup, ça fait plus farce. Peut-être plus que, enfin, en tout cas, ce que j'ai entendu là, j'ai pas vu moi le traité de Bave et d'éternité, mais le Maurice Lemaître, rien que dans le titre, tu vois, il y a un côté comme ça, avec même déjà un petit peu d'humour sur le lettrisme aussi, quoi. Ouais, c'est pareil, c'est complètement discrépant, c'est un texte qui passe pendant tout le film, et en fait, le truc de Lemaître aussi, c'est de faire du cinéma hors du cinéma, même que la salle devienne aussi, c'est-à-dire que pendant la projection du film est déjà commencé, le projectionniste était censé intervenir, qu'est-ce que c'est que ce bordel, enfin, tu vois, et qu'il y a même des spectateurs, acteurs dans la salle qui se lèvent et qui disent des trucs, etc.
Ouais, lui, ce qu'il entrevoyait, c'était vraiment que le cinéma était une forme qui était encore possiblement renouvelable, en fait. C'était pas du tout un changement, ouais, comme tu dis, de participation, etc. Mais qu'en fait, le cinéma, même dans juste le rapport entre une bande image et une bande son, ce rapport-là pouvait être encore largement amélioré et dissocier ce qu'on veut, et en tout cas créer quelque chose d'original qui s'endormait dans les années 50. Et putain, le pauvre, si vous voyez ce qu'on fait des fois maintenant. et en tout cas, enfin, c'est assez impressionnant, ça, qu'en plus l'édition est assez jolie. Il y a un petit texte de Frédéric Deveau qui
est
également
autre cinéaste lettriste,
qui est connu, qui fait des très beaux choses, et qui est assez joli, enfin voilà, en anglais, en français, qui est très bien, et puis l'édition est super clean, le DVD est nickel, enfin je
c'est trop beau. Revoir,
Revoir fond quand même. Et moi, il y a une petite phrase que j'aime bien, c'est de Ben, mais pas le moins l'autre, il est moins intéressant,
celui qui fait de la pub pour je sais plus quoi, il fait de la pub pour le Beaujolais nouveau là, on a vu une affiche aujourd'hui.
Enfin bon, il dit un truc, c'est grâce à Izu j'ai compris que l'important dans l'art n'est pas la beauté mais la nouveauté et la création.
Et il a écrit en typex sur fond.
Non, oui, c'est vraiment ça qui est vraiment surprenant quand on finit le traité de l'éternité, même pendant qu'on est dedans, c'est qu'il y a plein de choses qu'on saisit pas, l'ambiance du moment de Saint-Germain-des-Prés, le lettrisme, bon, c'est un peu ancien, maintenant on le voit comme un courant artistique, on a un peu de recul, etc. Mais ce qui est assez réjouissant et vraiment, enfin, qui fout une niaque pas possible, pour excusez-moi de l'expression, mais c'est que vraiment ça, c'est que du coup on dit, mais bon, hein, on faut arrêter, maintenant faut avancer, quoi. Mmh. Et faut continuer à créer, à faire des choses intéressantes, neuves, originales.
Extrait encore.
Piètre pitre, piètre pitre, d'autres boutres à votre titre, d'autres batterie, batterie, d'autres boutres, d'autres boutres, d'autres. Boutre, vitre, quatre, foutre, boutre. Hectre, vectre, plectre, gectre. Hectre, vectre, plectre, gectre. Têtre dans têtre. Xêtre n'a donc xêtre. Xêtre n'a donc xêtre n'a têtre. Pouk, pouk. Empil surjouk san palex san palex. Ogo ax pempre yogo grec son lung. Semble règre, semble xègre. Pouk, pouk. Tempel Jasuksum Parix, Gurix Pimbrin, Gurix en ligne, bah. Glorash! Glanche van pich! Textage trapme! Trapme, vapme, hand om dopme! Ze rapt me met nadom wie glas kobre! Nadom wie glas kobre! Ze rapt me om puk! Glesh puk! Glesh pak! Pak! Glanche van nadom wie guk! Glanche van pich! Textage glorash! Glorash!
C'est pas très long. Hein. C'est un bon moment de poésie lettriste. Très chouette. Je vous laisse imaginer la bande d'images génial, d'ailleurs, comme, ouais. comme on peut imaginer.
Ah, c'est dans le film ça aussi.
Oui, oui, c'est un extrait du film où il y a plein de petits moments comme ça avec des jeux. Mais je voulais dire tout à l'heure quand je disais que Debord avait pompé plein de trucs, Debord a fait des choses merveilleuses. Je vous en enclin à regarder tous les
superbe
films.
Superbe coffret d'ailleurs,
superbe
très
coffret,
très beau.
Qui avait été dirigé, l'édition du coffret avait été dirigée par Olivier Assayas d'ailleurs, qui est quand même un. Un mec assez impressionnant, donc, mais bon, faut quand même dire que des fois, les films de Debord, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux les voler?
Donc aujourd'hui, nous avons parlé de The Grief, concert samedi soir donc à la Fanzino à 18h, je crois.
Au Confort
Moderne à 18h. On a parlé de deux fanzines qui s'appelaient Torboyau, donc le fanzine du vélo d'Angers, et
Last Hours,
un fanzine de London. très très beau, qu'on peut trouver tous les numéros bientôt à la Fanzinothèque. Et
on a parlé de Fanzine American, de ouais. Inside Van Island ouais. de Lauren R. Weinstein et de How to Understand Israel in 60 Days or Less de Sarah Glidden. Oh. On a écouté Isidore Isou.
Ouais, on a parlé de Isidore Isou, de Traité de Bave et d'Éternité, aux éditions, mon merveilleuse édition Revoir.
Oh là là, qu'est-ce
que
c'est.
Et d'ailleurs, je prends juste 30 secondes pour dire que Revoir sort donc plein de choses en DVD maintenant. Mais il faut bien savoir qu'ils sortent toujours pas les films, les unpaid films de braquage ou ce genre ouais. de films de
image par image.
De Len Lai, parce que bah, comment faire pour passer tout
ils
ça
ils considèrent que la compression DVD est encore trop.
Par définition, la compression DVD, de toute façon, fait des prédictions entre les images.
Il y a des films comme Geoffrey Cher là où le mec il fait un dessin mais après chaque photogramme est vraiment super différent, enfin c'est des collages à chaque fois
et ça c'est impossible à reproduire
à compresser
en DVD puisque ça prédit des images etc, donc c'est encore des possibilités techniques. Ils sont en train de voir pour le Blu-ray qui sera peut-être plus simple.
Allez, alors un petit Jim Hendrix
parce que pour un petit hommage quand même, on avait oublié de rendre hommage à Mitch Mitchell qui nous a quitté, donc le premier batteur de Hendrix Experience qui avait joué notamment sur Electric Ladyland et Ario Experience, et donc voilà, c'était un petit morceau en hommage à un grand homme qui a disparu. C'était le dernier du trio qui restait, qui avait joué encore, qui a continué à jouer, à rendre hommage à Hendrix.
Et il est mort étouffé par son vomi.
Non, une mort assez calme chez lui, paraît-il, mais voilà, c'était pour un petit coup. C'était pas du tout nostalgique, c'était au contraire pour continuer à réécouter de la bonne digue.
Ouais, super.
Tout le temps.
Gypsy Eyes. Allez, à la semaine prochaine. On est là pour ça, on laisse la place à Indépendance. À bientôt.
Ciao.
Roadside, the one that rambles on for a million miles. down this road, searching for your love, and I'm my soul's